La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité. Et aujourd'hui, on va parler médias local, puisque au cours de ces derniers mois, vous êtes peut-être déjà tombé sur ce journal reconnaissable à ses couvertures colorées, que ce soit en kiosque, dans un bureau de tabac ou même en boulangerie. Je veux parler de la Topette, une parution trimestrielle qui se revendique locale, populaire et indisciplinée. On y trouve des enquêtes et des reportages sur des sujets locaux et variés, le tout illustré par des illustratrices du coin. Pour revenir sur leur lancement et discuter du deuxième numéro qui vient de paraître, nous sommes avec Julien, un des cofondateurs et rédacteur de La Topette. Bonsoir.
Bonsoir Thibaut, merci pour l'invitation.
Je t'en prie. Alors, la rédaction de La Topette se compose de journalistes professionnels qui travaillaient auparavant dans d'autres médias. Est-ce que tu peux commencer par revenir un peu sur toi, ton parcours et ce qui vous a poussé à lancer La Topette ?
Alors, personnellement, moi, donc, je suis journaliste indépendant. Ça fait à peu près 10 ans d'expérience dans le métier. Donc, j'ai fait vraiment le parcours traditionnel d'un journaliste, c'est-à-dire j'ai fait une école reconnue par la profession. Ensuite, je suis rentré dans une grande rédaction à Paris, qui était la chaîne Canal+. Et après, j'ai un peu décidé de changer de parcours. Donc, je me suis retrouvé rédacteur en chef d'un journal économique indépendant qui était à Bruxelles. Et voilà, et maintenant je ne travaille plus que pour des publications indépendantes et c'est aussi dans cette optique-là que j'ai lancé La Topette. Alors effectivement, on est trois journalistes professionnels, ça j'insiste bien parce que c'est important, on veut proposer à nos lecteurs une information sérieuse avec des infos sourcées, vérifiées, donc tout ce qu'on va lire dans La Topette est vraiment carré. Mais voilà, on va être un peu un journal poil à gratter, c'est-à-dire qu'on va un peu faire différemment que ce que fait le reste de la presse, en décortiquant un peu le message politique et surtout notre ligne éditoriale, c'est de parler des gens avant tout, des gens donc, qui font vivre le Maine-et-Loire.
Oui, et puis c'est une manière aussi, on peut le voir à travers les sujets que vous abordez, en partant du local, d'aborder des problématiques qui sont, elles, qui touchent tout le monde au niveau national.
Tout à fait. Ce qui se passe autour de chez nous, en fait, c'est on est dans un monde globalisé et forcément, c'est une illustration de ce qui se passe à une échelle de beaucoup plus grande. Et je pense que, justement, d'expliquer ces choses-là via un prisme local, ça permet à nos lecteurs de comprendre des choses, effectivement, qui se passent au-delà de ce simple prisme.
Et le premier numéro était sorti donc en septembre. Comment ça s'était passé les mois précédents, la mise en place un peu générale, alors que ça soit le choix des premiers sujets, la structure associative que vous avez choisie, le contact avec les premiers illustrateurs et illustratrices pour imager tout ça?
Alors effectivement, on est déjà on est fondé en association parce que on tient à revendiquer ce côté 100% indépendant. Il y a pas d'actionnaire à La Topette, il y a pas de publicité non plus parce que la pub ça peut être un moyen de pression sur les rédactions. Il y a plein d'exemples en France à ce niveau-là. Et donc, on voulait être en association justement pour ça. Et c'est quelque chose qui a mûri depuis très longtemps parce que ça fait un moment qu'on pensait à faire un journal local. On a eu la chance, malgré le fait qu'il y a un confinement au printemps dernier, ça nous a permis de nous... un peu chacun de notre côté, de faire un pas de côté, un peu de réfléchir à comment on voulait orienter ce futur journal. Je vous cache pas que c'était quand même un sacré pari, parce que lancer un journal papier en 2020, personne vraiment à part nous y croyait. Mais bon, on a du coup pris le temps de vraiment réfléchir à comment orienter tout ça. Et voilà, et au fur et à mesure, l'équipe s'est étoffée, c'est-à-dire que à l'approche du numéro 1 qui était sorti début septembre, on a pu rencontrer d'autres gens, leur parler de notre projet, notamment des illustrateurs qui ont une place très importante au sein du journal, et arriver à la sortie du numéro 1.
On va revenir un peu sur ce numéro, mais d'une manière générale, comment est-ce que vous travaillez collectivement? Est-ce que certaines tâches sont inhérentes à une personne en particulier? Est-ce qu'un choix de sujet doit faire l'unanimité? Et comment est-ce que vous répartissez un peu tout ça?
Faire l'unanimité, ouais, Parce que déjà, c'est une particularité, il y a des gens qui ne comprennent pas trop, on ne signe pas nos articles, parce qu'on pense qu'en fait, l'ensemble des sujets obtiennent l'accord de la rédaction dans sa globalité. C'est toute une équipe qui travaille autour, il n'y a pas que les trois journalistes. Comme je disais, il y a des illustrateurs, mais il y a aussi une relectrice, il y a Julie, une graphiste, on a aussi plein de petites mains, des bénévoles qui nous aident à faire la distribution, la communication, gérer un peu tout l'administratif. Et c'est vrai que du coup, c'est plutôt des sujets qui font consensus, et je pense qu'on a la chance un peu d'être quand même sur la même ligne tous et de se retrouver dans les sujets qu'on va traiter. Et ça se fait un peu au fur et à mesure, en fait. Les sujets, c'est lié parfois à des rencontres, parfois à des choses qu'on a mûries depuis très longtemps, qu'on pense à des sujets auxquels on pense depuis plusieurs mois. Et voilà, c'est un peu un équilibre à trouver, je trouve. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Il n'y a pas trop d'engueulades sur le choix des sujets.
Et vous avez dû aussi, tu l'as un peu évoqué, développer votre réseau de distribution, ce qui est aussi un sacré travail. Vous vous occupez de ça vous-même. Est-ce que l'idée, c'était de répartir aussi les points de vente accessibles et ne pas être que dans les centres-villes, mais dans tout le territoire?
Exactement, tout à fait. Ouais. Ça a été un sacré boulot parce qu'on partait de rien, de démarcher. En fait, on les a démarchés un par un, ces points de vente. Et oui, on voulait pas être juste dans les centres-villes. En fait, on veut essayer de parler à tout le monde, que ce soit aux jeunes, aux anciens, et à la ville, à la campagne. Et donc, on a fait un peu tout le tour du département, trouver des kiosques, des boulangeries, des épiceries bio, des librairies, qui voulaient bien nous accepter. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les gens accrochaient directement au projet et accepter de nous distribuer. Et justement, c'est quelque chose de très important, les petits commerces dans les bourgs ruraux, parce que souvent il y a un tissu associatif qui malheureusement est de plus en plus dégradé, et souvent ces petits commerces permettent de faire un peu de lien social dans ces territoires où malheureusement il se passe de moins en moins de choses.
C'est d'ailleurs aussi une des envies que vous avez de mettre en avant ce genre de choses. Là, par exemple, sur le deuxième numéro, c'est un épicier local que vous mettez en avant à travers un petit portrait.
Ouais, tout à fait. Ouais. À chaque numéro, on va avoir un portrait d'air. Alors, je pense à un célèbre journal quotidien qui, en portrait d'air, fait toujours des gens assez connus. Nous, on veut prendre un peu ce contre-pied-là en mettant des anonymes, en présentant un métier à chaque fois différent. Et là, cette fois, dans le numéro 2, c'est l'histoire de Romaric, qui est un jeune quarantenaire qui a ouvert une épicerie-bar dans un petit village près de Segré, un village qui s'appelle Aviré, qui fait quelques centaines d'habitants. Et justement, c'est vraiment un endroit où on a été du coup de nombreuses fois pour le rencontrer, car créer vraiment un lieu de vie, c'est-à-dire qu'il fait tout un tas de choses, c'est un peu un homme orchestre du commerce, il fait bar, relais poste, caviste, épicier, etc. Il vend des bouteilles de gaz aussi. Mais dans ce petit village, en fait, tous les samedis matins, même tous les jours de la semaine, il y a plein de gens qui se retrouvent. Et ça fait un endroit où les gens peuvent se croiser. Ils n'ont pas forcément besoin du coup d'aller prendre leur voiture, faire 15 km pour aller au gros supermarché de Segré. Ils peuvent faire leurs emplettes sur place et surtout se retrouver, discuter. Et c'est vraiment du coup un endroit important et qui revivifie les campagnes. Et en plus, pour le cas de Romaric, c'est quelqu'un qui a plein de bonnes idées, qui a fait des concerts avant, des soirées autour de repas et tout. Bon, malheureusement, avec le confinement, tout ça est un peu compliqué, mais c'est vraiment des gens qui permettent de faire bouger les campagnes de l'Anjou.
Et alors je vais revenir un peu avant qu'on continue de parler de ce deuxième numéro sur le premier. 3 mois après la parution, est-ce que ça vous a permis de tirer un premier bilan en termes à la fois de vente et puis de retour aussi de lecteurs et de lectrices?
Ouais, tout à fait. Déjà, c'est quelque chose qui nous a fait très plaisir. Il y a énormément de gens qui ont pris le temps de nous écrire, nous envoyer des lettres, des emails pour nous féliciter. Surtout pour nous dire que ça faisait des années qu'ils attendaient ça, qui est un journal, un nouveau média, un papier un peu différent sur le département. Et puis, au niveau des ventes, ça a vraiment cartonné. En fait, on s'y attendait pas du tout. Moi, je pensais vendre 300 exemplaires. Je pense qu'on est en train actuellement là, de faire les comptes, mais on en a vendu plus de 2500, donc c'est un vrai succès. On a même dû retirer, faire un nouveau tirage parce que tout était parti au bout de 3 semaines. Donc je pense que c'est très bien parti. On espère continuer sur cette dynamique.
Et dans cette volonté de ne pas toucher que les centres-villes, est-ce que vous avez pu voir que ça fonctionnait et que chez vos distributeurs les plus excentrés ou dans les zones un peu plus périphériques, ça marchait aussi bien que dans les points de vente à Angers, à Cholet?
Ouais, énormément. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mails de gens qui viennent de la campagne et qui étaient vraiment très heureux, qui d'ailleurs considèrent qu'on est un journal rural parce qu'ils ont l'impression que les autres médias ne parlent jamais de leur région et qui d'ailleurs ont des tonnes d'idées de sujets. On pourrait faire plein de choses là-dessus vu tout ce qu'on nous a proposé. Là, effectivement, ouais, ça marche bien en campagne. Et en fait, les gens, ils ont juste envie qu'on s'intéresse à eux et ils ont un peu l'impression, malheureusement, d'être délaissés d'habitude.
Et est-ce que vous avez eu quelques échos aussi ou quelques retours de personnes dont vous avez parlé dans le premier numéro, que ce soit des institutions ou des entreprises qui sont nommées, que vous aviez contactées sur le moment, qui vous avaient pas répondu, mais qui, après coup, est-ce que vous avez entendu des choses?
Bah, c'est assez marrant. Alors là-dessus, je crois que pour eux, du coup, il vaut mieux ne pas parler de nous. Ça, c'est clair. Mais on a vu que sur certains sujets, notamment autour de la ville d'Angers, je pense au projet de Smart City, de ville intelligente, ou alors il y a la ville d'Angers qui a lancé en coopération avec une start-up un site d'e-commerce pour les commerçants angevins. Et ce qu'on s'est rendu compte dans notre enquête sur le premier numéro, c'est que c'était un véritable fiasco, ça marchait pas vraiment. Et en fait, même si la mairie nous cite pas, ça fait bouger les choses parce qu'il y a des membres de l'opposition qui se sont pris en main sur ces sujets-là, qui les ont un peu portés devant le maire. Ça a fait pas mal de remous d'ailleurs. Et en fait, c'est là où je me dis aussi qu'on a, c'est une première réussite parce que on parle souvent des bienfaits du journalisme de solution, etc. Mais en fait, je pense que c'est ça le sujet. Le journalisme de solution, c'est notamment dénoncer certains sujets, dénoncer certaines choses pour que ça fasse bouger les choses. Et c'est aussi notre rôle.
Pour revenir un peu plus sur ce deuxième numéro qui vient tout juste de sortir, je te propose qu'on commence par la couverture. Donc le titre, c'est « Hôpital, service civique, on exploite bien les jeunes ». Alors avant de revenir sur les articles auxquels le titre fait référence, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'illustratrice de cette couverture, qui est donc Morgane Somville, qui est professeur d'art à Bruxelles?
Tout à fait. Mais Morgane, ouais, c'est alors normalement, on n'a que des illustrateurs locaux. Morgane, pour elle, pour le coup, elle est bruxelloise. Mais bon, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qui fait un super boulot. Ça nous faisait vraiment plaisir de travailler avec elle. Et c'est ce qu'on veut un peu faire à chaque fois avec la couverture, c'est faire un objet très coloré, qui est attirant, qui sort un peu de la morosité ambiante, parce qu'en plus, nous, on a des sujets quand même qui sont parfois assez lourds dedans. Et voilà, ça correspondait bien, son style, à l'image de la topette. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est avec tous les illustrateurs avec qui on travaille, bon, il y en a 5 autres qui, eux, sont angevins, à chaque fois, ils ont vraiment carte blanche sur l'illustration, c'est-à-dire qu'on discute ensemble du sujet, on écrit notre article tranquillement, après on leur envoie, on leur laisse le temps de mûrir, et ensuite c'est eux qui créent l'illustration, donc c'est vraiment quelque chose de complémentaire, et c'est pas nous, les journalistes, qui vont dire on veut telle chose, etc. Et souvent ça marche bien, je pense que ça donne une vraie identité au journal aussi.
Et d'autant plus que vous en avez rappelé certains et certaines d'un numéro à l'autre, ce qui permet d'avoir aussi un peu un fil rouge à travers les illustrations.
Tout à fait, bah oui, mais maintenant ils font clairement partie de l'équipe, du coup, parce qu'ils sont complètement impliqués dans l'élaboration du journal, et je pense que leur travail est aussi important que celui des journalistes.
Et alors, pour revenir sur les articles, est-ce que tu peux nous dire d'où est venue cette envie de mettre en avant ces deux sujets autour de cette exploitation des jeunes, à travers donc d'abord une interview croisée avec 5 infirmières et d'autre part une enquête sur les limitations et les abus liés au service civique?
Oui, tout à fait. Ouais. Donc on fait une sur la jeunesse parce que je pense que c'était important pour nous de parler des jeunes, surtout en cette période où c'est vraiment pas facile pour eux. J'aimerais pas être étudiant aujourd'hui, ne pas pouvoir sortir alors que c'est un moment où on doit faire sa vie, en fait, rencontrer des gens, s'amuser, etc. Et surtout qu'ils ont été très stigmatisés. On a quand même pas mal répété dans les médias que si le Covid repartait à la hausse, c'était leur faute, etc. Et en plus, on va les laisser avec des perspectives économiques et d'emploi dans les prochaines années qui sont pas réjouissantes. Et pourtant, d'ailleurs, la preuve en est avec, on a rencontré des dizaines de jeunes pour ces deux papiers, et c'est des gens qui ont plein d'envie, qui sont très courageux. Donc c'était un peu quand même aussi une façon de leur rendre hommage. Alors effectivement, il y a deux papiers. Il y en a un premier qui est une conversation, en fait. On a rencontré 5 ou 6 infirmières, c'est pas moi qui a fait le papier, donc j'ai plus en tête le nombre exact d'infirmières, mais après une journée de travail. Et donc c'est des jeunes qui débutent dans ce métier, qui ont 3-4 ans d'expérience, mais qui déjà, malgré que leur carrière soit pour l'instant très courte, elles ont cumulé énormément d'expérience, parce qu'en fait c'est un métier très très précaire, où notamment quand on débute, bah, on a des petits contrats de 1 mois, 2 mois, souvent à temps partiel, et qui provoquent très vite un épuisement. Et il faut savoir que le métier d'infirmier ou d'infirmière, c'est un de ceux où il y a le plus d'abandon dans les premières années de réalisation de ce métier. On essore vraiment ces jeunes, et tout ça par des manques d'effectifs. Et on profite un peu justement de ces jeunes qui sont encore assez malléables pour les épuiser, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a eu un effort suite à la crise du Covid pour revaloriser les salaires. Mais en fait, ce n'est pas ce qui ressort le plus dans leurs propos. Elles, ce qu'elles ont envie, c'est de bien faire leur métier, d'avoir des conditions de travail satisfaisantes pour être fiers, parce que je pense qu'on travaille dans la santé, bah, c'est pas par hasard, c'est quand même, on a envie d'aider, de soigner les gens, et ça c'est quelque chose qui les pèse beaucoup, et il y a un vrai malaise dans cette profession.
Oui, c'est ce qui ressort un peu des deux papiers, c'est que effectivement, dans les deux cas, on est face à des manques de moyens qui sont pallié par l'usage et le surusage des jeunes.
Non, tout à fait. Et effectivement, l'autre papier, sur le service civique. Alors, le service civique, c'est quelque chose qui est un peu à la base être très, très bien. D'ailleurs, c'est proposé à des jeunes de faire un service volontaire dans une institution pendant plusieurs mois, notamment dans les associations, où là c'est vraiment quelque chose, notamment dans les milieux culturels, où ça permet de se faire une vraie expérience. Le souci, c'est que ça découle de décisions politiques, parce qu'avant il y avait quelque chose qui s'appelait les emplois aidés, qui était très bien, qui permettait à des jeunes d'avoir un vrai salaire et dont les associations pouvaient profiter, parce qu'elles, malheureusement, elles n'ont pas beaucoup de moyens, donc elles n'ont pas trop le choix que d'utiliser ces emplois aidés et d'avoir un vrai salaire. Et en fait, le gouvernement actuel, à l'époque la ministre du Travail s'appelait Muriel Pénicaud, a décidé de supprimer ça, en réalité parce que ça coûtait trop cher. Et donc aujourd'hui, on a c'est un service civique, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un emploi. Les jeunes ont une indemnité qui est de 580 euros par mois. Donc on a parlé des associations qui, heureusement, peuvent profiter de ça, mais surtout la vraie dérive, et c'est ce qu'on dénonce un peu dans cet article, c'est que des services civiques, il y en a de plus en plus dans les institutions, dans les services publics, et en fait, ces jeunes qui viennent travailler dans ces services publics remplacent des emplois qui devraient notamment être tenus par un titulaire. Et surtout, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ça parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autre chose. Parce que quand on a moins de 25 ans, on n'a pas le droit à RSA. Et faute de mieux, ils acceptent ces tâches sous-payées, et qui en plus, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que une fois que ce service civique dans ces institutions publiques est parti, on ne va pas l'embaucher. On va prendre un autre jeune pour faire le même boulot. Et au final, il n'y aura pas plus de création d'emplois.
Je vais revenir sur le premier article également. Quand on ouvre le journal, c'était celui autour de la fermeture du site de Schneider à Saumur, et ce alors que l'entreprise n'en est pas du tout touchée par la crise. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet article ?
Ouais, alors Schneider Saumur, il y a eu toute une vague de plans sociaux à la rentrée de septembre, et Schneider Electric en fait partie. Eux, ils ont une usine à Saumur Schneider Electric Saumur fabrique, si vous voulez, des espèces de gros disjoncteurs à l'échelle d'un quartier ou d'un hôpital, par exemple. Donc c'est un peu le disjoncteur que vous avez dans votre maison, mais pour tout un pâté de maison. Et c'est une usine qui, c'est un peu l'histoire en fait des délocalisations et de la casse de l'industrie en France, c'est-à-dire qu'elle s'est portée très bien pendant le Covid, elle n'a pas du tout souffert de la situation, mais bon, comme ça passait un peu au milieu d'un flot de plans sociaux, du coup ça a un peu passé discrètement. Il y a quand même 74 exactement employés qui se retrouvent sur le carreau, qui vont être licenciés à la fin du premier semestre 2021. Et ce qu'on s'est rendu compte, surtout au fur et à mesure de l'enquête, c'est que cette usine, elle était beaucoup plus grosse, et elle a été détricotée au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que plutôt que de faire un gros scandale où on va licencier 300 personnes d'un coup, et depuis 4-5 ans, en fait, on a délocalisé la production d'une des cellules en Inde, en Turquie, en Égypte. Au fur et à mesure, les effectifs sont employés et du coup, ça fait un peu moins scandale, entre guillemets, quand on ferme définitivement l'usine. Et effectivement, quand on dit que ce n'est pas du tout une usine qui souffre du Covid, c'est que c'est une entreprise qui a augmenté ses dividendes cette année. Elle distribue quand même 1,4 milliard d'euros à ses actionnaires. Et surtout, c'est un peu technique, mais c'est ce qu'on essaye d'expliquer justement à travers ce papier, c'est que c'est une entreprise qui effectue ce qu'on appelle du rachat d'actions. Alors le rachat d'actions, c'est quand même très simple, c'est-à-dire qu'en fait, une entreprise va utiliser ses fonds pour racheter sur le marché boursier des actions. Donc pour le cas de Schneider, on est à 2 milliards d'euros, et ensuite les détruire. Donc en fait, ces 2 milliards d'euros, c'est colossal. On aurait pu sauver l'usine et employer des centaines de personnes avec ça. Et au final, la production de Saumur, elle, va être délocalisée à l'étranger. Et voilà.
et toutes ces choses-là ne sont donc pas foncièrement illégales, mais tout du moins portent des grosses questions morales. Il y a un encadrement peut-être insuffisant à ce niveau-là.
Ah ben non, complètement, il n'y a rien d'illégal. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est justement avant, elles auraient été illégales, parce que ça, par exemple, le rachat d'actions, ce que je viens d'évoquer, cette petite filouterie boursière, c'est quelque chose qui était interdit avant, jusqu'en 1998 exactement, que le gouvernement Jospin l'autorise. Mais ça fait suite en fait à 30 ans de dérégulation financière. Aujourd'hui, c'est un peu la logique, c'est de laisser le tapis rouge aux entreprises, de les laisser faire un peu tout ce qu'elles veulent. Et ça vient d'une idéologie, c'est croire que le marché réglera tout par lui-même, qu'il arrivera à se contrôler soi-même. Et en fait, le problème, c'est que ça a des conséquences sur les gens, sur l'emploi notamment, et il y a des gens qui se retrouvent au chômage. Chez nous, en Anjou.
Vous essayez de trouver un équilibre entre des enquêtes un peu plus générales comme celle-là et des articles qui vont être un peu plus proches, on va dire, des témoignages des gens directement, ou est-ce que ça se fait un peu naturellement quand vous choisissez les sujets?
Oui, on essaie de trouver un équilibre dans le journal. Comme on en parlait tout à l'heure, entre ce qui touche les villes, les campagnes, on essaie un peu de traiter. Mais même quand on fait une grosse enquête comme ça, je pense à José, à Laurence. Laurence qui a passé 40 ans à l'usine, sur une ligne à l'usine de Schneider Electric à Saumur. En fait, via son témoignage, on va justement parler d'une enquête. Et c'est important de parler, de raconter sa vie à Laurence. Pour expliquer ces choses plus compliquées. Et je pense qu'une enquête, elle est d'autant plus forte quand on s'appuie sur le témoignage des gens.
On va revenir dans quelques instants pour terminer cette émission ensemble. Ça sera juste après Titi Zaro, et le titre, c'est L'hymne des Louves.
Oiseau à la place du cœur, l'hymne des Louves aux premières lueurs, et des oiseaux à la place du cœur, l'hymne des Louves aux premières lueurs, avalo qui t'ai-je voilà, celle qui entend les cris du monde, femme sacrée, femme sauvage, femme racine, l'hymne des louves, première lueur. Cet oiseau d'homme, et des oiseaux à la place du cœur. Cet oiseau d'homme, l'hymne des louves, première lueur. Cet oiseau d'homme, et des oiseaux à la place du cœur. Cet oiseau, avalo qui te jvala.
Retour dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est toujours en compagnie de Julien, cofondateur et rédacteur au sein de La Topette. Et on a encore quelques minutes pour parler un peu de ce deuxième numéro qui vient de sortir. Ce que je te propose, c'est toi, Julien, de choisir un des articles de ce numéro que tu voudrais mettre un peu en avant.
Bah, vu qu'on est à Radio Campus Angers, peut-être on peut parler d'un article sur notre ville, du coup. Je pense notamment, on a fait un peu une enquête sur, un article assez marrant d'ailleurs, sur le fait que Angers est souvent a été élu plusieurs années de suite par le magazine L'Express, la ville où il ferait le mieux, le plus bon vivre en France. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel nos représentants politiques s'appuient beaucoup. Ils les relaient souvent sur les réseaux sociaux et fanfaronnent un peu autour de ça. Mais en fait, quand on gratte un peu, on a analysé tous les différents classements de l'Express de ces dernières années, c'est pas très sérieux, en fait, parce que la méthodologie, on peut dire un peu douteuse, et les critères subjectifs, c'est-à-dire qu'on va se baser sur une série d'indicateurs, mais dont la pondération va changer au fur et à mesure des années, donc un peu selon le bon vouloir des journalistes qui vont écrire ça, on va pouvoir faire gagner une ville ou l'autre. Et aussi, puis c'est des critères qui posent question, en fait, parce que du coup, une ville où il ferait bon vivre, selon l'Express, ça serait surtout une ville où on est en sécurité, où il y a peu de cambriolage, où il y a un aéroport à proximité, ce genre de choses, en fait. Ce qu'on trouve, le nombre de restaurants étoilés aussi, c'est assez drôle. Donc c'est quand même des critères très très bourgeois. Et on voulait un peu gratter ça et montrer cette ville où il ferait si bon vivre n'est pas forcément la même pour tous. Voilà.
Un article effectivement assez amusant à lire. On retrouve notamment toute une série de slogans de villes pour vendre principalement aux Parisiens. Il va être déjà l'heure de nous quitter. Est-ce que tu peux peut-être nous donner simplement votre site, les liens pour trouver les informations utiles, les points de vente de La Topette?
Bah oui, on a un site internet qui permet notamment de s'abonner à partir de 12€ par an et on peut retrouver la liste des 130 points de vente où on est distribué dans le département, et c'est tout simple, c'est latopette.fr.
Merci beaucoup Julien d'avoir pris le temps de venir répondre à mes questions, et puis on se voit sûrement à une prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt.
Quant à nous, on est mercredi et mercredi, c'est hip-hop rap sur les ondes de Radio Campus. Vous allez pouvoir retrouver en première partie de soirée le coureur de funk, suivi ensuite de Scratch Fellaz et Lamine. On se retrouve nous demain pour la dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée à toutes et à tous.